Seigneur, nous voulons vraiment nous recommander à ta grâce, à la générosité de ton cœur, à ton désir et à ta capacité parfaite de bénir et de visiter selon nos besoins. Équipe-nous toi-même par le Saint-Esprit pour une bonne écoute, une bonne communication. Écarte toutes les tentatives de l'ennemi d'interférer. Mais c'est sur toi, Père, que nous avons les yeux fixés. Et véritablement, nous te disons de tout notre cœur que nous avons soif de toi, soif de te rencontrer. Nous éprouvons le besoin de toucher un peu plus le bord de ton vêtement. Merci de nous guider les uns et les autres. À cause de la vertu parfaite de ton Fils Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, à cause de sa vie de résurrection, pour sa gloire et pour l'avancement de ton règne dans nos vies et aussi dans la vie de nos contemporains, de ceux qui sont autour de nous et qui ne te connaissent pas encore. Merci de venir vraiment dans ta grâce. Amen. Nous allons lire ensemble deux passages. Le premier dans 1 Samuel chapitre 16 qui ouvre l'histoire de David. 1 Samuel 16. Nous en lisons les 13 premiers versets. 1 Samuel 16, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, mais comment irai-je ? Saül l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » « Sanctifiez-vous, venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, « Oh, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shamma, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Oh, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Paul à l'église de Jésus-Christ à Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, les adultes qui sont mûrs. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, jauge tout, examine tout, discerne tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous le savez, notre thème tourne autour de la formation de l'homme spirituel. Formation de l'homme spirituel à partir de l'histoire de David et plus particulièrement des chapitres nombreux, impressionnants, de formation du jeune David à la royauté. Nous avons du pain sur la planche, nous devrons faire des choix. Le sujet en lui-même est un sujet généreux dans les Écritures. Nous demanderons au Seigneur de nous guider pour pouvoir sélectionner ce que lui voit comme correspondant à nos besoins. Mais nous nous réjouissons de nous pencher sur l'histoire de David. Parce que l'histoire de David occupe une grande place dans la Bible. Il faut savoir qu'elle occupe en volume de texte, si vous voulez, le deuxième rang dans les Écritures, après, bien entendu, celle de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ remplit les Écritures, au-delà des 89 chapitres des évangiles. Nous savons que la Bible est saturée, parfois de manière très, très sous-jacente, du message et de la personne de Jésus-Christ. Mais David, lui, est présent dans environ 60 chapitres qui lui sont consacrés directement. Vous savez qu'à ces quelques 60 chapitres, il faut ajouter les rabbins, selon le judaïsme, 73 des 150 psaumes du psautier sont signés de David. Je viens de passer plusieurs semaines à creuser à nouveau, à relire, à reméditer, à réétudier ces psaumes, parce qu'ils nous révèlent beaucoup de choses sur la personne de David, sur sa piété, sur son cœur, sur ses combats. Nous verrons dans ce thème de la formation de l'homme spirituel comment associer certains psaumes à divers aspects de cette formation. En tout cas, le fait que David ait ce deuxième rang en volume de texte dans les Écritures après Jésus-Christ est une indication, une preuve de l'importance tenue par sa vie dans la révélation écrite de Dieu. Il y a dans la vie de David une richesse d'enseignement à tirer pour la vie de tout disciple de Jésus-Christ. L'histoire de David n'a pas été simplement donnée pour le peuple juif. L'Ancien Testament n'a pas été donné uniquement pour le peuple juif, il est pour nous. Il y a dans l'Ancien Testament un message extraordinaire qui nous concerne, ceux et celles d'entre vous qui ont participé à certains de nos camps de famille des années précédentes l'ont remarqué. L'an dernier, nous sommes penchés sur Naomi, Elimelech, Ruth, dans ce contexte du message de la vie rétrograde et du réveil, les prophètes Osée, Jérémie, etc. Et nous avons vu combien ce message était un message pour nous aujourd'hui, à la fin du XXe siècle. Eh bien, nous allons le voir aussi en ce qui concerne David. David, tout d'abord, dans ses préliminaires, nous allons consacrer notre matinée simplement à préparer le terrain, à donner quelques préliminaires. En disant tout d'abord que David est un type de Jésus-Christ. Je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Type de Jésus-Christ dans plusieurs aspects de sa vie et de son histoire. Il est un maillon important dans cette chaîne miraculeuse d'ascendance de celui qui est à la fois le Fils et le Seigneur de David. Vous connaissez sans doute, ou sinon nous le découvrons dans Matthieu 22, c'est une des attaques, dirions-nous, du Seigneur Jésus lui-même face aux attaques des pharisiens notamment et d'autres. Dans Matthieu 22, versets 41-45, Jésus interroge les pharisiens et il leur dit: que pensez-vous du Christ? Matthieu 22, 41. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Le Fils est le Seigneur de David. Nous avons l'introduction de l'épître de Paul aux Romains, Romains 1, verset 3, où il y a une courte présentation, très ramassée, très concentrée, mais très riche, concernant Jésus-Christ, né de la descendance de David, selon la chair, Romains 1, 3. David, prophète de l'Éternel. Prophète de l'Éternel, en particulier dans les psaumes messianiques. Je pense au psaume 22. Vous connaissez ce psaume qui est à plusieurs reprises cité dans certains de ses extraits, qui tourne autour des souffrances expiatoires de Jésus-Christ, de sa crucifixion notamment. Dans Actes 2, 29 et 30, nous avons là de manière très claire l'annonce de son ministère prophétique. Actes 2, 29 et 30, dans ce discours de Pierre, il dit: « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète. » Hein, comme il était prophète. D'ailleurs lui-même, et je le crois avec beaucoup d'humilité, parce qu'il avait derrière lui une vie dans laquelle il avait appris à prendre sa juste mesure, il dira dans ses toutes dernières paroles, nous avons les dernières paroles de David, hein, la précision est dans le texte, en introduction, dans 2 Samuel 23, c'est toujours intéressant, les dernières paroles d'une personne, quelle qu'elle soit. 2 Samuel 23, verset 1er, voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. D'abord, fils d'Isaïe. Sous le jour le plus humain, qui fait de lui notre égal à tout point de vue. Paroles aussi, il y a là une lucidité. Ce n'est pas de l'orgueil, mais simplement, il le constate, c'est Dieu qui l'a placé dans cette position d'autorité. Parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, nous allons en parler tout à l'heure, du chantre agréable d'Israël, l'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. On aurait eu plus de peine à avaler une telle confession si elle s'était située tout à fait au début de la vie de cet homme de Dieu. Mais là, après quelques 40 ans de carrière royale, nous le verrons, marqué de moments très très douloureux, quelle concentration de souffrance Dans la vie de cet homme, nous sommes obligés de sonder ce texte de la bonne manière. Un homme inspiré, rédacteur inspiré d'une partie des écritures, de textes essentiels, comme nous le verrons. Ça, c'est le deuxième point. Type de Christ, tout d'abord, prophète de l'Éternel, ensuite. Et puis, alors, ce qui jette un pont qui nous le rend sympathique, chaque fois que nous nous penchons sur un de ces porte-paroles de Dieu dans les Écritures, nous avons envie de dire la même chose. Un homme est un croyant de la même nature que nous. Homme et croyant de la même nature que nous. Nous l'avons vu, un musicien, le chantre agréable d'Israël, un poète, un homme d'État, un administrateur, un homme de guerre. C'est vrai, un homme d'envergure. Pourtant, tellement proche de chacun d'entre nous. Par son humble origine, le berger, nous l'avons vu, celui qui est oublié dans les champs. C'est bien que son histoire commence de cette manière. Hein, de quoi nous rassurer si nous faisions un quelconque complexe d'infériorité. Issu d'une famille nombreuse, le cadet, le dernier en tout cas de 8 frères, qui mentionne sa maman. Et de belle manière, à 2 reprises, il la reconnaît comme la servante de l'Éternel. C'est un beau titre. La servante de l'Éternel, à 2 reprises, hein, dans le psaume 86 au verset 16 et dans le psaume 116 au verset 16 aussi, pour ceux qui notent, il parle d'elle comme la servante de l'Éternel. Et comme en écho, il est dit à 2 reprises aussi, de lui-même, il se présente lui aussi comme le serviteur de l'Éternel. À 2 reprises, dans le psaume 18 au verset 1er et dans le psaume 36 et au verset 1er. Ça, c'est une des grandes caractéristiques du caractère de David. Comme nous le verrons à la grande différence de Saül. À part le tout début de sa vie, de ce qui nous est connu de sa vie, de son entrée dans la royauté, Saül n'a pas manifesté un esprit de serviteur, mais un esprit de patron. Et hélas, dans un mauvais sens, il y a aussi un bon sens au mot patron. Nous ne voulons pas non plus galvauder ce terme qui a plusieurs connotations, mais comprenez dans quel sens je veux le dire. David nous est vraiment présenté comme celui qui avait à cœur d'être le serviteur. Même dans sa royauté, dans ses hautes fonctions, il y a chez lui la mentalité d'un serviteur. Et ça, je crois que c'est d'ailleurs une des pierres de touche de l'homme spirituel. L'esprit de serviteur, de servante. Et puis alors, il faut dire ici quelques mots de son grand échec. Je veux parler de l'échec de David dans sa vie familiale. Nous ne lui jetons pas la pierre, mais nous devons reconnaître que ça n'a pas été brillant. Ça n'a pas été brillant dans l'éducation de ses enfants. Il y a ici et là des notes instructives. J'en sors une simplement, mais elle est toute ramassée. C'est très lapidaire, c'est très court, mais ça veut dire beaucoup de choses. Dans 1 Roi 1:6 concernant Adonija, l'un de ses fils, qui aurait pu hériter du trône, si il en avait été ainsi dans la volonté de Dieu. Et il est précisé là au verset 6, son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Une petite phrase, mais qui vaut des livres. Et je pense que plus d'un adulte aujourd'hui, et j'en ai entendu des témoignages qui ressemblaient étrangement à cet extrait de verset. Plus d'un adulte aujourd'hui dans des moments de terrible lucidité, pourrait se tourner vers un aîné dans sa vie de famille pour dire, mais si seulement on avait su me dire, mais pourquoi agis-tu ainsi? Si seulement quelqu'un m'avait dit non, c'était opposé, bien sûr, quand on est enfant et adolescent, s'il est un mot qu'on n'aime pas de la part des siens, c'est bien le mot non. Et il est vrai que parfois les parents ont tendance à beaucoup abreuver plus de non que de oui, mais ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, vous avez là un petit flash sur une des failles de David au niveau de sa vie familiale. Il a eu une douzaine d'épouses. Nous connaissons le nom de 8 d'entre elles. Au moins 10 concubines. Vous me direz, c'est pas grand-chose tout cela au regard de ce qui s'est passé ensuite. Hein? Avec Salomon, tout est relatif. Et nous savons aussi que tout cela entre jusqu'à un certain point dans une forme de tolérance de Dieu. Je ne dis pas de plénitude de la volonté de Dieu. La plénitude de la volonté de Dieu, déjà dans l'Ancienne Alliance, bien entendu par excellence et uniquement dans la Nouvelle Alliance. Mais déjà dans l'Ancienne Alliance, c'est la monogamie, ça va de soi. Genèse chapitre 2, n'est-ce pas? Nous avons le Cantique des Cantiques qui est un chant extraordinaire d'amour qui exalte de justes relations dans le cadre de la monogamie. Mais il y a une sorte, je dirais, de tolérance souffrante de Dieu à l'égard d'un peuple qui a besoin de grandir. Et il y a bien d'autres choses qui sont ainsi dans l'Ancienne Alliance. Nous pourrions tout au long de ces jours prochains être très sévères à l'endroit de David. Parce que c'est vrai, j'ai entendu même ces derniers temps, en évoquant David ici ou là avec des amis ou des personnes qui simplement me parlaient de David et qui avaient la dent dure. Et il m'est arrivé une ou deux fois de leur dire, mais vous savez, comment aurions-nous réagi si nous avions vécu à l'époque de David, quelques 1000 ans avant Jésus-Christ? Nous avons, nous, une révélation extraordinaire, parfaite, entière, suffisante. Jésus-Christ est venu. Il y avait chez David un tâtonnement dans bien des domaines. Il suffit de lire certains de ses psaumes pour nous rendre compte qu'il... Il y avait des aspects de la révélation que nous avons qu'il n'avait pas encore. Nous l'avons vu dans le passé avec d'autres hommes comme Abraham, etc., n'est-ce pas? Alors, n'ayant pas la dent trop dure, plaçons ces récits dans leur époque et souvenons-nous que Dieu a plus de patience, plus de miséricorde que nous dans son approche de l'homme, même s'il est des tolérances faites de souffrance. La lettre de divorce, je le mentionne au passage, mais sans m'y arrêter, dont il est question, notamment dans le Deutéronome, Jésus le précisera, c'est quelque chose qui a été permis, et c'est dit, je dirais presque du bout des lèvres, à cause de la dureté des cœurs, et en particulier à cause de la dureté du cœur de l'homme, n'est-ce pas? Et ceci est donc un texte de l'Ancien Testament. Deux grandes chutes doivent être mentionnées. Nous en connaissons une, nous aurons l'occasion de l'évoquer, peut-être par contraste avec certains passages concernant la formation de David à la royauté, mais nous connaissons cette chute avec Bathsheba. C'est un des textes les plus connus des croyants et les plus douloureux à cause de ce clair-obscur, n'est-ce pas? D'un côté, il y a tant de belles choses aussi. Le psaume 23, tant de passages bouleversants qui ont été un soutien. Je pense que vraiment les psaumes de David sont best-sellers dans le monde entier, hein, sous toutes les latitudes, quelles que soient les cultures, aller partout dans le monde. Et les psaumes de David, le personnage de David, fait palpiter les cœurs. Et pourtant, il y a cette terrible chute, vertigineuse, prolongée dans le temps, et qui s'inscrit tellement en contraste avec certains aspects si lumineux et bienfaisants de son caractère, liés à sa formation, comme nous le verrons. Et puis alors, il y a un échec, une chute plus collective, bien que David dit « mais c'est moi le coupable, c'est moi qui dois être frappé ». Dieu n'a pas pensé exactement les choses de la même manière. Si David a pris l'initiative provoquer donc le dénombrement au sommet de sa royauté, et donc s'est attribué la faute à lui seul parce qu'il endossait sa responsabilité royale, il ne se défilait pas devant sa responsabilité royale, Dieu a quand même vu la chose autrement. Ce n'était pas uniquement la faute de David, c'était une faute collective, et le roi n'a fait qu'exprimer, qu'extérioriser une mentalité qui s'était peu à peu propagée au travers des mentalités du peuple d'Israël dans son ensemble. Alors Dieu est intervenu d'ailleurs et a touché le peuple dans ce dénombrement à travers cette mort terrible de dizaines et de dizaines de milliers de personnes. Hein, vous connaissez ce texte du dénombrement, notamment dans 2 Samuel 24. Faut-il préciser que David n'est pas le seul à avoir connu l'échec familial. C'est intéressant de voir que trois grands hommes de Dieu qui appartiennent à la même époque ont connu des problèmes dans ce domaine. Vous avez tout d'abord Élie. Je ne parle pas du prophète Élie, mais du sacrificateur, celui qui ouvre le livre de Daniel. Et vous savez comment Dieu s'est servi de Samuel, et je n'aurais pas été aimé être dans la peau de Samuel, qui devait adresser de la part de Dieu un message extrêmement difficile à quelqu'un qui était homme d'expérience, sacrificateur, etc., n'est-ce pas ? Un homme qui honorait ses fils plus que Dieu. Vous relirez ce début du livre de Samuel, ces tout premiers chapitres. Et puis vous avez Samuel lui-même, dont il nous a dit que ses fils n'ont pas marché sur ses traces. Alors, par contre, là, pour Samuel, il n'y a pas de reproche. Il faut le souligner. Il n'est jamais dit que Dieu ait reproché d'une manière ou d'une autre à Samuel d'être directement responsable. La Bible se tait. Et si la Bible se tait, nous nous taisons avec elle. Et cela nous maintient dans l'humilité, surtout ceux qui ont la dent dure, je réutilise volontairement cette expression, pour bâtir des équations trop faciles concernant la spiritualité des parents qui devraient automatiquement se retrouver chez les enfants. Chez Élie, manifestement, il y avait un problème qui s'est répercuté chez les enfants. Chez Samuel, cela n'est pas dit. Chez David, nous avons une troisième situation. Un homme de Dieu, remarquable, chéri de Dieu, bien-aimé de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, mais qui, dans ce domaine, a connu une grande faiblesse. Vous voyez, trois situations assez complémentaires, et ceci dans les mêmes livres, dans la même histoire. En tout cas, disons-le, David est un homme d'une profonde spiritualité par rapport à son temps, à son époque, et surtout par rapport aussi à la fonction qui était la sienne. Il était roi. Il avait donc une fonction politico-socio-religieuse. C'est pas évident. Désormais, Israël n'était plus en régime théocratique. Et il faut aussi tenir compte de cet aspect-là quand on évoque la vie de David. Homme d'une profonde spiritualité dans laquelle, reconnaissons-le, il y a peu de grandes chutes. Mais bien des victoires, et je dirais des victoires de Dieu. Des victoires de Dieu. Il est connu comme un homme de prière. Nous l'avons dit, la tradition hébraïque lui attribue la composition de 73 psaumes sur 150. Il y en a peut-être d'autres. Il y a quelques points d'interrogation ici et là, d'autant plus que la division en 150 psaumes, ça c'est notre invention, mais certains de ces psaumes qui ont été divisés n'en formaient qu'un. C'est le cas de plusieurs d'entre eux, donc on ne peut pas forcément compter exactement comme nous le faisons, mais disons que c'est pratique pour nous. Il faut souligner le fait que David est un passionné de Dieu. Je suis reconnaissant de ce que notre frère Daniel tout à l'heure a voulu donner une certaine tonalité à notre camp en évoquant l'importance d'une relation d'amour entre Dieu et nous et nous et Dieu. Et ça, c'est une des caractéristiques de David. Sa passion pour Dieu. Un homme assoiffé de sa présence. Un homme désireux de l'aimer. Désireux de lui plaire. Un guerrier qui a versé beaucoup de sang. C'est ce qui fait que ça peut nous gêner quelque peu aux entournures, hein, mais je vous ai dit pourquoi. Mais en même temps, un homme qui a des accents, je dirais, féminins. C'est bon pour nous les hommes. Hein. Quand au début du psaume 18, il dit, dans le texte original, c'est ainsi qu'on peut traduire, « Oh Dieu, je te chéris avec tendresse. » Il y a vraiment des accents d'affection profonde qui ont beaucoup plus de relief parce que ça sort de la bouche, c'est sur les lèvres et ça sort du cœur d'un homme qui par ailleurs était un homme de guerre et qui n'a pas pu, vous le savez, être le superviseur de la construction du temple précisément, notamment, c'est une des raisons parce qu'il y avait du sang sur ses mains dans le cadre de ses fonctions de chef d'État chargé de maintien de l'ordre, d'expansion du royaume sous les ordres de Dieu, etc., etc. Et là, nous touchons déjà à une des pierres de touche de l'homme spirituel. Je crois que l'homme spirituel est un passionné de Dieu. Et quand la passion de Dieu baisse dans notre vie. Oh, il ne s'agit pas de vouloir se culpabiliser à outrance. Il y a dans nos vies, aux uns et aux autres, de ces moments d'une certaine sécheresse, où la passion, je dirais, affective de Dieu n'est pas directement présente. Mais ce sont des moments, comme nous le verrons, qui appartiennent aussi au temps de notre formation, à ces étapes de croissance. Il est des déserts qui sont inscrits dans la volonté de Dieu pour que nous apprenions à vivre par la foi en sa parole et non pas par la confiance dans le monde mouvant de notre affectivité, de nos sentiments. Ce qui fait qu'il ne faut pas s'alarmer, je dirais, outre mesure, de ces fluctuations de notre passion affective. Toutefois, il importe quand même que, honnêtement, nous nous posions des questions. Sans introspection, disons, mais Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui a grippé les rouages de ma relation avec toi et qui fait que m'approcher de toi n'est plus mon bien maintenant, je n'ai plus soif. Ou bien alors, est-ce que c'est un temps d'éducation? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre dans le domaine affectif quelque chose? Est-ce que j'ai appris à ne vivre que trop de mes sentiments? Ces périodes qui durent doivent quand même nous amener à une certaine réflexion saine, sans introspection morbide, sans nous laisser déstabiliser par le père du découragement, par l'accusateur. Mais souvenons-nous que Dieu veut être aimé. Il veut être aimé. Et c'est une des grandes qualités spirituelles de David. Et un homme qui a aimé concrètement, pas seulement affectivement. Quand on voit comment David s'est mobilisé pour constituer un trésor de matériaux extraordinaires en vue de la construction du temple. Tout cela, il l'a fait par amour pour le Seigneur. On pourrait dire tant de choses, mais nous y viendrons sans doute dans la conclusion de notre série de réflexions. En tout cas, ce que j'aimerais maintenant souligner, toujours dans ce préalable à notre étude plus directe de la formation, ce que j'aimerais souligner, c'est la place importante donnée à la formation de David. C'est un des personnages des Écritures, sinon le personnage dans les Écritures, pour la vie duquel Dieu a voulu nous donner un volume de texte très important quant à sa formation entre 1 Samuel chapitre 16 jusqu'à 2 Samuel chapitre 2. C'est beaucoup quand vous pensez à la formation de Moïse pour qu'il devienne ce conducteur du peuple d'Israël. 40 ans. Il y a eu les 40 premières années qui ont été sa formation de base, mais humaine, aussi de capacité, etc. Mais ensuite, vous savez qu'il y a eu 40 ans pendant lesquels notre ami Moïse a dû désapprendre. Et ça a été alors sa véritable formation de futur conducteur qui a commencé. Mais il nous a dit peu de choses. De ce temps, hein, ça va très vite dans le début du livre de l'Exode. Là, au contraire, pour David, le Saint-Esprit s'étend. Il prend le temps d'expliquer, de réexpliquer, de montrer les choses sous plusieurs angles. Nous le verrons dans le domaine de l'apprentissage de ce que j'appelle la loi royale de l'amour qui pardonne. Hein, nous avons des textes extraordinaires, hein, Samuel 24, 25, 26, trois chapitres qui sont saturés d'un enseignement, je dirais, néo-testamentaire sur l'amour. Il y a là des accents et des indications fantastiques pour nous, croyants d'aujourd'hui. Trois chapitres simplement sur le développement, je dirais, du fruit de l'esprit, ce que le Nouveau Testament appelle le fruit de l'esprit dans la vie de cet homme de Dieu. S'il y a tant de place donné à la formation dans la vie de David, ça veut dire que Dieu a quelque chose à nous dire, de tout particulier concernant notre formation. C'est ce qui m'a intrigué, de voir qu'il y avait une telle place pour lui. Je dis, mais pourquoi? Quelles sont les indications de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi? L'histoire de David commence au 11e siècle avant Jésus-Christ. On situe le règne de David à peu de choses près. On ne va pas se battre sur quelques années, mais aux alentours de 1010 à 970 avant Jésus-Christ. Vous savez que c'est assez facile pour les trois premiers rois de la période de la monarchie unique, Saül, quarantaine d'années, David, une quarantaine d'années, et Salomon, une quarantaine d'années. Alors c'est facile. Après ça se complique, hein, mais c'est bien que ça commence comme ça. 1 Samuel 16, que nous avons lu partiellement, se situe, oh, c'est assez difficile à dire, mais sans doute 10 à 14 ans avant le début du règne de David à l'âge de 30 ans, que nous avons donc dans 2 Samuel 1 et 2. Et vous avez marqué dans la fin du texte d'1 Samuel 16 au verset 12 et 13 qu'il est question d'une première onction de David. Et associé à cette première onction de David, il est dit qu'à partir de ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel saisit ou s'empara de David. Hein, à partir de ce jour-là et dans la suite. Première onction de David. Et cela me suggère une chose. Cela me suggère, dans le cadre de la Nouvelle Alliance, la nouvelle naissance. C'est-à-dire ce moment où ce que j'appellerais l'onction royale verrait. Ce moment où nous entrons dans une famille royale. Nous sommes intégrés à un sacerdoce royal, dira 1 Pierre 2, 9. Dans cet héritage indiqué dans ce chapitre très intéressant. En quelque sorte, comme Abraham, nous devenons des princes de Dieu. Dans Genèse 23, 6, il y a cette merveilleuse remarque des païens qui voyaient Abraham. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Et je dirais que l'Esprit de l'Éternel, c'est vrai, nous saisit. Il nous saisit à partir de ce jour. Dans Philippiens 3, 12, l'apôtre Paul témoignera, il utilisera une expression semblable. J'ai été saisi par Jésus-Christ, j'ai été empoigné par Jésus-Christ. Empoigné sur le chemin de Damas, déjà dans sa gloire, le Seigneur Jésus l'a retourné comme une crêpe. Hein, il l'a saisi. Et désormais, il ne le lâchera plus. Faut-il dire, je le dis au passage, sans m'y attarder, que ce n'est pas nous qui saisissons l'Esprit pour l'obliger à se couler dans le moule de nos mentalités. C'est le Saint-Esprit qui s'empare de nous. C'est lui qui se saisit de nous. C'est lui qui veut prendre les commandes. Et il faut bien souligner la nuance. Maintenant, et c'est là que je voulais en venir dans cette introduction, quand cette onction royale nous est conférée, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, lorsque, je le crois, ainsi nous sommes baptisés du Saint-Esprit au moment même de notre régénération, à ce moment qui nous intègre par un miracle incompréhensible mais extraordinaire de Dieu, qui nous intègre au corps de Christ, à la famille de l'Église de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 12, 13. Quand donc cette onction royale nous est conférée, en réalité, nous sommes rois en devenir. Nous sommes rois en puissance. En quelque sorte, quand l'huile est descendue sur le jeune David, dans le cœur de Dieu. C'est vrai, David, en quelque sorte, était le roi selon son cœur. Mais
il s'est encore écoulé au moins une bonne dizaine d'années pour que cette royauté devienne une royauté concrète sur le terrain. Si vous voulez, le Saint-Esprit doit entreprendre notre éducation royale, parce que au moment de notre nouvelle naissance, eh bien, nous avons tout à apprendre dans ce domaine. Nous ne savons rien du tout de ce que c'est que vivre en roi. Souvent, nous nous figurons des choses. Et puis, nous nous désillusionnons ensuite. Alors, le Saint-Esprit va entreprendre notre éducation royale pour que nous puissions exercer concrètement notre fonction royale. Pour que nous manifestions une vie, un caractère, des œuvres qui soient dignes de fils du roi des rois, des œuvres qui soient siennes. D'ailleurs, nous accomplissons les œuvres qu'il a préparées d'avance, ce sont les siennes. Pour qu'elles soient royales, il faut que, je dirais, qu'elles sortent du cœur même de Dieu pour passer dans le nôtre. Qu'est-ce qui fait un vrai roi dans le domaine spirituel? Eh bien, un vrai roi, c'est un croyant dont le cœur, c'est-à-dire, oh, j'utilise cette expression régulièrement, le quartier général de l'individu, le tréfonds de l'être, là où se trouvent tous les leviers de commande, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est un générique. Le reste ne fait que répéter et développer, montrer certains aspects, n'est-ce pas? Le cœur dans l'Ancien Testament, siège de la pensée, mais siège de la volonté, dans une moindre mesure, parce qu'il y a d'autres termes dans les Écritures, siège de l'affectivité, mais il y a d'autres termes, beaucoup plus imagés, les matrices dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les entrailles, même les reins jusqu'à un certain point. Alors c'est intéressant de souligner cette nécessité pour le croyant d'avoir un cœur, c'est-à-dire l'épicentre de sa personnalité, qui soit le trône incontesté de Dieu. Le trône incontesté de Dieu. Ce qui fait de nous des rois, ce n'est rien en nous-mêmes, mais c'est le règne concret, pratique, visible du roi des rois, du Seigneur des Seigneurs sur notre cœur. Il m'est à diverses reprises arrivé dans le passé de souligner dans le vocabulaire biblique le fait que si Jésus ne porte le titre de sauveur, je dis le titre de sauveur, que 16 fois dans le Nouveau Testament, il est appelé Seigneur plus de 470 fois dans le Nouveau Testament. Seigneur. Et avec toute cette connotation que nous ne connaissons plus aujourd'hui, dans le langage de l'époque, le mot Seigneur, c'était un mot tellement fort. C'était un mot qui vous donnait des frissons dans le dos. C'était un mot qui se traduisait par des gestes qui pouvaient parfois montrer des cicatrices liées à de cruelles seigneuries. La seigneurie de César, n'est-ce pas? Celle qui a condamné des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliers de croyants à être crucifiés sur les grandes autoroutes, ces voies romaines, ou à être suspendu entre ciel et terre dans les jardins de Néron pour servir de torche enflammée après avoir été couverte de résine pour le plaisir de ce fou, n'est-ce pas? La seigneurie, c'était quelque chose. Aujourd'hui, on utilise ce terme, mais avec une certaine légèreté, à cause de la dévaluation des mots, de l'histoire de nos langues, n'est-ce pas? Mais souvenons-nous que la seigneurie de Jésus-Christ a conduit tant d'hommes et de femmes au sacrifice, au martyr, des Polycarpes et d'autres, dont nous pourrions raconter l'histoire. Vous connaissez cette parole d'Hudson Taylor, combien peu de personnes dans le peuple de Dieu ont reconnu que si Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Alors, je vous ai dit ceci parce que, en ce qui concerne David, une bonne dizaine d'années de formation de base ont été nécessaires pour que David puisse enfin commencer à régner effectivement et progressivement. C'est une des particularités de la vie de David qu'il a été roi trois fois. Trois fois. C'est tout à fait exceptionnel. Mais certainement parce que Dieu avait un enseignement pour nous en ce qui concerne notre croissance et notre formation pour que nous devenions de plus en plus hommes spirituels, adultes, mûrs, stables, portant du fruit pour le Seigneur. Vous avez donc la première onction, nous en avons parlé. La deuxième onction se situe au début de 2 Samuel, c'est intéressant, 2 Samuel chapitre 2, verset 4. 2 Samuel chapitre 2, verset 4. Où il nous a dit, les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Il entre en fonction. La préparation a été longue, longue. J'ai eu la joie de véritablement rencontrer Christ à l'âge de 11 ans, de manière très nette, très claire. Et ma vocation est venue très vite après et a été très forte aussi. Et je me souviens quand Dieu m'a, de manière très claire, appelé à un service particulier pour lui, j'ai pris ma plus belle plume. J'étais en classe de seconde interne dans un lycée. Et j'ai écrit, parce que j'étais à l'époque dans l'église réformée d'Alsace-Lorraine, dans la Fédération protestante de France, et j'ai pris ma plus belle plume pour envoyer une lettre enflammée de ma passion, tenez-vous bien, au président de la Fédération protestante de France. Parce que j'avais envie de servir. Utilisez-moi. Je bouillonnais. Et ma vocation datait alors de 3 ans, vous voyez, mais ça bouillonnait. Il ne m'a d'ailleurs jamais répondu. Sans doute avait-il d'autres choses à faire. Peut-être aurait-il fallu qu'il m'écrive en me disant, mais témoigne déjà là où tu es. Et puis, lis ta Bible, tu verras que dans les Écritures, Dieu a pris le temps avec un Saul de Tarse qui s'est converti après l'âge de 30 ans. Hein. Eh bien, Dieu a pris, je dirais, en tout cas, on pense de 10 à 15 ans pour en faire un homme de Dieu d'une envergure toute particulière dans ce ministère qui a été le sien dans ses voyages missionnaires, etc., n'est-ce pas? Alors c'est vrai, on piaffe, et puis on est dans le temps aujourd'hui où il faut que ça aille vite. Hein. J'ai dit non, non, patience, patience. Témoigne là où tu es, sois fidèle, déjà là, dans les petites choses, à la maison, et puis je te forme, je travaille, j'organise les circonstances, comme nous allons le voir ensemble. Hein. Et puis vous avez une... Alors là, je le précise, là, cette deuxième onction amène un règne restreint. Je ne sais pas si David avait envisagé de tout de suite avoir le gros lot. En tout cas, ça commence par un règne restreint sur Juda seulement pendant 7 ans et demi encore. Il va exercer encore, mais de manière limitée. Puis vous avez la troisième onction dans 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, on va lire ces versets, on arrêtera d'ailleurs avec ça. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais, qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Ça y est, maintenant, il peut régner sur la totalité du peuple d'Israël. Et alors, vous avez un résumé. Ensuite, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur toute Israël et Juda. Des précisions importantes, pas seulement pour Israël, pas seulement pour notre curiosité d'historien, d'amoureux des dates. Non, il y a derrière un enseignement, et je conclus en disant que chacune des trois onctions de David était prévue dans le plan de Dieu, est intervenu à l'heure de Dieu. Ce qui s'est passé entre la première et la deuxième onction est d'une importance capitale, parce que c'est le temps séparant la royauté en devenir potentiel, virtuel, par le choix de Dieu, de la royauté vécue dans toute sa réalité. Alors en observant bien ces chapitres 16 à 31 et 1 Samuel 1 et 2, nous allons voir comment Dieu s'y est pris pour le temps d'apprentissage de David, comment David a réagi. Nous verrons aussi de cette manière comment Dieu forme les hommes qu'il veut employer. Nous en tirerons des principes. Nous y mettrons des nuances, parce que ça n'a pas été facile pour David, c'est pas facile pour nous, mais enfin, nous sommes différents les uns des autres. Donc nous dégagerons des principes visibles dans l'ensemble des Écritures, et nous poserons ici et là des touches de nuances pour que nous ne partions pas de ce camp découragé en disant, ah ben si je vais me taper un Saül pendant 10 ans, les 10 ans à venir, eh bien, je donne ma démission tout de suite sur mon tablier. Nous verrons la sagesse de Dieu. Le journaliste Pierre Doublé, que je ne connais pas, rencontra par hasard son ancien professeur de lettres dans le jardin du Trocadéro à Paris. Et c'était l'époque du bac. Et ce professeur lui confia donc à ce journaliste ceci: observez bien Giscard d'Estaing. Ses parents veulent en faire un président de la République. Observez bien Giscard d'Estaing. Je suppose qu'il a regardé. Et il se trouve que Giscard d'Estaing est devenu président de la République. Observons bien David durant ces années. Et nous comprendrons bien des aspects de la grandeur de sa royauté, mais aussi peut-être des failles de sa royauté. Nous terminons ici. Je suggère que nous ayons un petit moment de prière. Simplement, mais vous savez, quelques petites flèches qui montent, toutes courtes, inutile de faire des grands discours, mais un mot qui sort de notre cœur, et qui correspond peut-être simplement à une pensée que Dieu a voulu dans sa grâce déposer dans notre cœur déjà dans cette introduction. Et je terminerai.